21h passées de quelques secondes, c'est mercredi et c'est le moment de retrouver Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Un nouvel invité ce soir devant le micro de notre rendez-vous littéraire. Et c'est avec plaisir que j'accueille aujourd'hui Camille Laurence. Bonsoir Camille Laurence.
Bonsoir.
Alors on se rencontre aujourd'hui à l'occasion de la sortie, enfin il est sorti il y a quelque temps quand même, hein, mais ce dernier roman a pour titre « Celle que vous croyez », il est disponible chez Gallimard. Alors Camille Laurence, permettez d'abord que je donne quelques informations à nos auditrices et auditeurs. Vous êtes née à Dijon. J'ai appris que vous étiez scorpion de signe astrologique.
Oui, c'est bien.
Parce que
bien,
je le suis également. Je suis né le 8 novembre, mais vous êtes du 6.
C'est le meilleur.
Vous pensez?
Oui.
Ils sont souvent très mal perçus, les scorpions.
Oui, c'est vrai.
Vous êtes agrégé de lettres modernes. Vous avez enseigné à Rouen. Vous avez enseigné pendant plus de 10 ans au Maroc. Cette année, que faites-vous, Camille Laurence, hormis membre du prix féminin?
Eh bien, j'écris. Voilà,
je
passe ma vie à écrire, c'est merveilleux. C'est un luxe, oui, j'ai tout le temps pour écrire.
Alors, un peu moins de 20 romans à ce jour, longtemps chez POL, désormais chez Gallimard. En 1991, vous avez débuté avec un premier roman qui avait pour titre Index. Vous avez obtenu le prix Fémina, c'était en 2000, pour Dans ces bras-là, qui était également prix Renaudot des lycéens. Oui. Et puis en 2008, vous avez reçu le prix Bourgogne de littérature pour Tissé par mille.
Oui, c'est un très bon souvenir, d'autant qu'avec ce prix, j'ai pu profiter d'une douzaine de bouteilles de Gevrey-Chambertin, ce qui, ma foi, a laissé des traces dans ma mémoire tout à fait sympathiques.
Alors parlons de Celle que vous croyez, c'est le titre de votre dernier roman. Un roman qui raconte l'histoire d'une enseignante de 48 ans qui est divorcée, et qui, pour surveiller son amant, qui s'appelle Joe, qui est un sorte de sale type quand même.
Oui,
je trouve que les hommes
n'ont
pas de très
dire.
Bon rôle quand même
dans ce
livre,
roman. Pas tellement,
pas tellement
en effet.
Tout de même, hein. On en prend plein la figure, nous les hommes.
Il y a quand même le psy qui est
Marc,
plutôt sympathique, oui, Marc.
Apparemment.
Oui.
Apparemment.
Oui.
Alors, cette femme, pour surveiller son amant volage, Joe, décide, via Internet, via le célébrissime Facebook, de créer un faux profil Facebook, oui, où elle se crée une nouvelle identité. Elle garde le même prénom, Claire. Elle s'appelle Antunes, qui rappelle le nom du romancier portugais. Et surtout, elle se rajeunit et elle va, par le biais des amitiés virtuelles avec les likes sur Facebook, elle va rentrer en relation avec le meilleur copain de Joe, qui s'appelle Chris, et elle va finir par provoquer chez Chris une curiosité d'amitié virtuelle dans un premier
oui.
temps, puis il y a un enchaînement de désirs d'un côté comme de l'autre. Mais la difficulté, c'est que sur Facebook, Claire a 24 ans, dans la réalité physique corporelle, elle en a 48,
oui.
Et à partir de là, qu'advient-il?
Voilà, vous avez très bien résumé le départ du roman. Eh bien, je me suis posé cette question, qu'advient-il après ce début? Et comme je ne voulais pas finalement donner une seule réponse, c'est-à-dire je ne voulais pas raconter une histoire linéaire, il arrive ceci jusqu'à la fin en allant de A à Z, j'ai envisagé toutes les possibilités, tout ce qui pouvait arriver au fond à cette femme à partir du moment où elle crée ce faux profil. Est-ce que elle va renoncer à rencontrer Chris ? Puisque ça paraît logique qu'elle ne puisse pas le rencontrer, puisqu'elle n'a pas 24 ans mais 48, alors que lui pense qu'il a affaire à une jeune femme de 24 ans.
Lui a 36 ans.
Lui a 36 ans. Et donc, si elle ne le rencontre pas, comment va-t-il prendre cette nouvelle ? Elle, comment va-t-elle survivre à cet abandon au fond de son désir ? Si elle le rencontre, elle ne peut le rencontrer que sous sa véritable apparence, bien sûr. Et dans ce cas, est-ce que ça peut être une véritable histoire d'amour entre cet homme de 36 ans et elle qui en a 48, ou bien est-ce que c'est voué à l'échec, enfin, voilà. Et donc, comme je ne voulais pas choisir en tant que romancière, eh bien, j'explore les différentes possibilités narratives qui toutes sont possibles.
Ouais. Alors, il y a effectivement l'histoire racontée par Claire auprès de son psychiatre, car
oui.
On comprend qu'il lui est arrivé un drame.
Oui. On peut imaginer que ça s'est mal terminé, en
on
tout cas.
On peut imaginer, mais on ne sait pas trop ce qui s'est réellement passé. Alors ensuite, on découvre que Claire, en tant que, je sais pas, pensionnaire de cet hôpital psychiatrique, a rédigé, dans le cas d'un atelier d'écriture, elle a raconté sa rencontre avec Chris.
Voilà.
L'a-t-elle vraiment rencontré?
Ou bien l'a-t-elle inventé, pour ce roman?
Ensuite, il y a l'approche qu'en fait le psychiatre Marc.
Oui.
Et puis, il y a l'animatrice de l'atelier d'écriture de cet HP qui s'appelle Camille Morand et qui s'approprie l'histoire de Claire en Tunesse, de Claire Milcam en Tunesse, et qui en fait un roman qu'elle commente et propose à son éditeur et amant, Louis, me semble-t-il.
Éditeur et ami, en fait.
Ami.
Oui.
Et puis, il y a des enregistrements, des dépositions auprès de la gendarmerie, enfin, tout est assez complexe. Et effectivement, la quatrième de couverture le dit, c'est un jeu de miroir où l'on oscille tout le temps entre, alors je ne sais pas si c'est la folie ou le côté brillant de Claire, parce qu'elle est exceptionnellement brillante, on oscille entre le virtuel, la réalité, Facebook, l'écriture, la fiction romanesque, et tout cela crée un enchevêtrement de différentes versions sur une même histoire.
Oui.
Quelque chose de très baroque, enfin, je dirais une espèce de construction en abîme, c'est très,
oui,
très baroque.
Oui, tout à fait, mais je suis très sensible à ces jeux de miroir. Dans beaucoup de mes romans, je les pratique d'une façon ou d'une autre. Mais précisément dans ce roman-là, puisque c'était un roman sur le virtuel, sur notre univers qui est fait de ces réseaux sociaux, des rencontres virtuelles, eh bien je voulais que la lectrice ou le lecteur soit lui-même à même de comprendre ce que c'était que le virtuel. C'est-à-dire que lui, en tant que lecteur, eh bien il est aussi pris dans ce jeu de faux, de vrai, comme un internaute sur Facebook ne sait pas si l'histoire qu'on lui raconte est vraie ou fausse, eh bien le lecteur est dans la même position. Ça, c'était mon choix de romancière.
Alors, on reviendra justement sur le jeu dans lequel vous êtes vous-même tombé, finalement, par rapport à ces nouvelles technologies, Facebook, les smartphones. C'est un monde très, très moderne, et c'est d'autant plus amusant quand on est publié dans la collection blanche de chez Gallimard. Mon Dieu, si Gide savait qu'on parle de Facebook.
Mais écoutez,
lui aurait eu une page Facebook, par exemple?
Oh, je suis sûre qu'il aurait eu une page Facebook. Et puis alors, surtout, parce que c'est une remarque qu'on me fait souvent, que Facebook, bon, c'est très moderne, que ça n'a pas de valeur universelle dans un roman. Mais à cela, je réponds que Marcel Proust, dans La recherche du temps perdu, a évoqué le téléphone assez longuement, à l'époque où le téléphone commençait. C'était, il y avait les demoiselles du téléphone, il en parle abondamment, il les compare à des déesses parce qu'elles avaient le pouvoir d'interrompre la conversation. Vous savez, le fameux « Mademoiselle, ne coupez pas ». Et il y a toute une partie de l'histoire d'amour, enfin, de certaines histoires d'amour du narrateur qui sont liées à l'angoisse du téléphone et de la coupure possible. Eh bien, on regretterait bien, je ne vais pas me comparer à Proust, mais c'est pour donner un exemple. Proust a parlé d'un outil de communication dont personne ne pouvait connaître le destin. Et Facebook, c'est la même chose, on ne sait pas.
Vous avez une page Facebook ?
J'en ai deux. Non, mais cela dit, je n'ai pas de fake, je n'ai pas de faux profil, j'ai simplement une page. J'ai une page professionnelle où j'annonce mes déplacements, mes publications. Et puis j'ai un profil personnel pour mes amis.
Très bien, merci pour ces précisions. On marque un premier temps de pause musicale, puis on se retrouve avec vous, Camille Laurence, pour Celle que vous croyez, à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Celle que vous croyez, c'est le titre du dernier roman de Camille Laurence qui affronte ce soir le micro de Wagon Livre. Enfin, c'est pas très dangereux d'affronter les micros, Camille Laurence.
Non, je trouve plutôt ça agréable.
Alors, revenons sur l'Internet qui est tout de même passablement au cœur de l'intrigue, j'allais dire du drame, mais aussi des comiques de situation, quelque chose de très théâtral dans cet univers, sur cette toile justement. Et vous écrivez « Internet est à la fois le naufrage et le radeau ». Et puis un peu plus loin, « Tantôt on est l'araignée, tantôt le moucheron ». Méfiance avec le Facebook et finalement Claire Milcam l'apprend à ses dépens.
Oui, et d'ailleurs je remarque que le net qu'on appelle souvent la toile porte bien son nom, parce que c'est une espèce de toile d'araignée où en effet on est tantôt l'araignée, tantôt le moucheron, parce que on est l'araignée au sens où on peut rester derrière son écran toute la journée à guetter les réactions des uns et des autres, les likes, les posts, tout le vocabulaire.
Et la petite lumière verte.
La petite lumière verte qui indique que l'autre est connecté, celui qu'on surveille. Et je pense aux millions de gens de par le monde qui sont accrochés à cette lumière verte, parce que pas seulement les amants, les amoureux, mais enfin tous les gens qui aime bien savoir ce qui se passe ou qui aime bien contrôler, puis il est jaloux, enfin c'est un univers fantasmatique et pervers. Et alors de temps en temps on est l'araignée parce qu'on a l'impression qu'on contrôle tout, qu'on peut tout surveiller, mais on est aussi le moucheron parce que les autres nous surveillent nous-mêmes et peuvent nous manipuler.
Le drame de cette Claire Milcam, enseignante brillante, un beau parcours social qui ressemble un peu au vôtre dans les grades de l'université.
Oui, 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 on peut le dire. Mais...
Elle a des points communs.
Ça, ce n'est pas un hasard parce que je donne souvent à mes personnages des éléments que je connais.
Et effectivement, le drame, c'est qu'elle aurait pu aller dans des lieux publics, des bars, des discothèques, pour trouver un amant. Mais finalement, là, elle tombe dans le piège de la toile en s'inventant un personnage. Donc c'est excitant aussi de faire croire que l'on est quelqu'un d'autre. Et effectivement, il y a une référence littéraire omniprésente, c'est Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard, puisque c'est 1730, j'ai retrouvé la date exacte, où effectivement, on a les deux personnages principaux de cette comédie de Marivaux, dont les pères ont décidé de les marier, mais avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Et ils décident donc d'échanger leur rôle social.
Avec leur serviteur, oui. Donc le maître devient le valet, et inversement. Et de l'autre côté, la maîtresse et la servante, oui. Justement, c'est bien une façon de comprendre que ces jeux de masques ne sont pas strictement contemporains, mais qu'ils sont pratiqués notamment au XVIIIe siècle, parce qu'on peut penser aussi aux Liaisons dangereuses, où c'était un roman par lettres, mais c'est un peu l'équivalent de Facebook, on peut raconter ce qu'on veut par lettres. Il y a cette lettre fameuse dans les Liaisons dangereuses où... Valmont écrit une lettre d'amour à Madame de Tourvel alors qu'il est, il l'écrit avec, enfin sur le pupitre, ce sont les reins de sa maîtresse, et il écrit une lettre d'amour à une autre. Enfin ce sont des jeux pervers qui se retrouvent d'une autre façon dans notre univers virtuel.
Claire est aussi, alors elle est brillante, mais alors elle raconte des sacrées blagues à son psychiatre, et les blagues ont un lien aussi avec la féminité vieillissante. Elle est pétrie de l'envie de séduire, elle veut continuer à plaire, et c'est bien ça son drame, c'est comment continuer à plaire. Le problème, c'est qu'elle cherche à plaire par le biais de Facebook. Alors on pourrait dire que l'entreprise est vouée à l'échec.
Tout à fait, mais c'est-à-dire qu'au départ, elle n'avait pas créé ce faux profil pour rencontrer un homme plus jeune. Au départ, elle l'a vraiment créé pour espionner son amant. Donc elle est prise à ce piège, elle est vraiment prise dans la toile. Mais il est certain que ce n'est pas le meilleur moyen de rencontrer quelqu'un que de se rajeunir de la moitié de son âge, bien sûr.
Alors elle se recrée une identité, puisqu'effectivement donc elle se rajeunit, elle dit qu'elle travaille, elle s'appelle Claire en Tunis, avec des origines portugaises, elle travaille dans l'événementiel, donc elle est toujours en déplacement, ce qui est un beau prétexte pour expliquer à Chris, on ne peut pas se rencontrer parce que je suis sans cesse en déplacement, mais que veux-tu, je suis en train de me créer un CV, de me créer une carte de visite, et j'aspire à progresser dans cet univers de l'événementiel.
Donc elle invente complètement cette vie de jeune femme qui débute dans sa carrière, alors qu'elle est donc professeure d'université, divorcée, qu'elle a deux enfants adolescents, qu'elle a en garde alternée. Donc évidemment, c'est pas du tout le même univers, mais alors, avec les chansons qui vont avec, enfin, elle se recrée tout un univers.
En tout cas, elle a pas de chance avec les hommes, parce que le Joe, l'amant volage, qu'elle envisage de surveiller via Facebook. Il est un peu pervers, il disparaît, on ne peut pas dire qu'il soit attendrissant. Et puis alors, Chris, le copain de Joe, c'est une sorte de loser. Certes, il a peut-être des talents artistiques de photographe. Oui. Enfin, il est au RSA, il n'a pas vraiment de chez lui, il n'a pas d'argent.
Bien sûr. Non, mais elle entre dans un autre univers à tout point de vue, univers virtuel et puis aussi socio-professionnel. Ce n'est pas son milieu. C'est-à-dire que c'est un homme qu'elle n'aurait jamais rencontré dans la réalité. Enfin, ça aurait été très peu probable, parce que ce n'est pas du tout son milieu. Donc c'est aussi ça, et c'est d'ailleurs le côté positif, je trouve, de Facebook, d'une manière générale. parmi tous les mots qu'on peut lui attribuer, c'est quand même un lien qui permet de brasser des populations, des gens de partout dans le monde qui ne sont pas forcément voués à se connaître.
Vous avez des amis sur Facebook à l'autre bout du monde que vous ne connaissez, que vous n'avez pas rencontré physiquement.
Bien sûr, et avec qui je discute à l'occasion. Enfin, il faut qu'il y ait une langue commune, mais oui, bien sûr.
Mais ils discutent de vos romans ?
Oh ben pas forcément, non. On peut discuter de choses et d'autres, de musique, du temps qu'il fait, de politique.
Alors c'est amusant parce que finalement j'ai l'impression que vous vous êtes bien renseigné sur un grand nombre de sites internet. Alors, ne parlons pas des sites de rencontres, parce qu'il en est un tout petit peu question.
Oui, mais
Facebook
c'est pas...
n'est pas un vrai site de rencontres.
Non, non, non.
Mais
non.
Tout est possible, pour le meilleur et pour le pire.
Voilà, oui.
Et puis, vous parlez d'un site... Alors, ça, je demande confirmation à Camille Laurence, qui est ce soir devant le micro. Il y a des sites qui peuvent nous inventer complètement une vie. Par exemple, en faire une photo, faire croire que j'étais en interview avec Camille Laurence et je mets ça sur ma page Facebook. Sauf que moi... J'ai la vraie Camille Laurence devant moi, là. Elle ne peut pas tricher, Camille Laurence.
Oui, mais il y a un site internet, effectivement. Bon, évidemment, c'est payant, donc si vous vouliez faire croire que vous faites une interview, alors vous ne la faites pas, il faudrait vous offrir les services de ce site, mais ils sont prêts à faire des choses extraordinaires.
Par exemple ?
Ben, par exemple, à vous fournir des billets d'avion prouvant que vous êtes allé à Pékin le week-end dernier en séminaire d'entreprise, alors que vous étiez à côté de chez vous avec votre maîtresse. Mais ce sont des sites, en fait, qui sont essentiellement, je pense, destinés aux gens qui veulent tromper leur entourage, aux adultères, enfin. Mais ça existe.
Mais ça coûte très cher, sans doute.
Écoutez, je n'ai pas les tarifs en tête, mais j'étais déjà stupéfaite quand j'ai vu que ça existait. Et on peut même vous fournir des cadeaux. Si vous voulez faire croire que vous revenez de Pékin, on va vous fournir un petit cadeau qui a l'air d'avoir été acheté à Pékin. Bien, c'est facile parce que maintenant, comme tout est fabriqué en Chine.
Revenons à notre Claire Milcam face à son psychiatre, un beau psychiatre apparemment. Elle essaie d'ailleurs aussi un petit peu de le... Elle le taquine. Je ne sais pas si elle n'est pas aussi un peu dans la séduction, alors qu'elle est dans une démarche de soins.
Elle est dans une démarche de soins, mais c'est une femme qui a besoin d'avoir un interlocuteur masculin et de préférence qui soit un peu séduit, comme elle l'est par lui.
Alors, elle raconte des blagues sur la situation des femmes qui vieillissent. Par exemple, le super pouvoir qu'acquièrent les femmes de 50 ans, elles deviennent invisibles.
Oui, je l'aime bien celle-là.
Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres qui sont plus, beaucoup plus triviales.
Oui.
On ne peut pas la dire. Vous ne voulez pas la lire ?
J'aimerais autant pas.
Ah bon ? Non, il faut assumer ce qu'on écrit. Non, quand bien même c'est un roman, Camille Laurence.
Non, mais bien sûr. Celle-ci est vraiment...
La femme qui tombe du 25e étage.
Oui.
Ah oui.
Je ne vais pas la raconter.
Ah bah bravo. En revanche, il y a beaucoup de réflexions sur la langue. Alors, à l'HP, il y a Michel, c'est un des patients aussi. Lui, il fait de l'étymologie, il est passionné d'hébreu et il apporte des éléments extrêmement intéressants. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. La langue aussi, parfois, elle est maltraitée sur Facebook et Claire en Tunis, elle est bien obligée aussi d'ajouter des fautes d'orthographe pour faire vrai. Parce qu'aujourd'hui, pour faire vrai, il faut faire des fautes d'orthographe.
Mais c'est-à-dire,
si on est trop brillant sur Facebook, c'est suspect.
Dans son désir de devenir quelqu'un d'autre, elle est amenée d'abord à apprendre le vocabulaire de Facebook avec beaucoup de mots d'anglais. On utilise beaucoup l'anglais, c'est cool, je suis busy, un fake, bon, un like, tout ça c'est le vocabulaire de Facebook. Et puis aussi, elle fait des fautes d'orthographe parce qu'elle est prof de lettres, prof d'université, donc ça la choque immédiatement comme dans des copies d'étudiants. Et elle voit que Chris fait des fautes dans ses messages. Donc elle se dit, si moi je ne fais vraiment aucune faute, ça va peut-être être un peu suspect si j'ai un langage impeccable. Et donc elle apprend à écrire autrement, vraiment à se fondre une autre vie.
Et justement cette recherche, alors je ne sais pas si elle recherche vraiment l'amour, on a l'impression que c'est plus une démarche pour raviver le désir. Ce qu'elle craint, c'est le grand vide dans son existence, le grand vide lié au désir.
Oui,
tant
qu'il
y a désir, elle a l'impression de sauver sa vie ou en tout cas de survivre.
C'est-à-dire que elle ne fait pas tellement la différence entre le désir et l'amour. C'est-à-dire qu'elle pense que pour trouver l'amour, il faut de toute façon qu'il y ait d'abord le désir. Et donc elle se dit, il faut qu'il y ait une approche érotique, et puis ensuite, si tout va bien, l'amour viendra. Mais ce qui la préoccupe, c'est en effet du domaine de la séduction physique, du désir charnel, oui, bien sûr.
On a l'impression que c'est plus la recherche du désir qui l'excite que la sexualité, que le rapport sexuel.
Oui, oui.
C'est d'ailleurs pas le charnel qui l'intéresse le plus.
Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose sur quoi je reviens à plusieurs reprises dans le roman. C'est plus tout ce qui précède, c'est-à-dire la rêverie, l'imagination, le désir proprement dit, parce que le désir, c'est
sur par définition... Sur le donjuanisme au féminin, un petit peu.
Bah oui, mais appliqué à un seul homme. Parce qu'elle n'est pas non plus... Enfin, donjon, on passe de l'une à l'autre. Alors qu'elle, elle se focalise sur cet homme, mais plus dans le désir que dans la recherche d'être comblée, en fait. Ce qui l'intéresse, c'est de se sentir vivante parce qu'elle désire un homme.
Camille Laurence est avec nous ce soir dans Wagon Livre pour son dernier roman, Celle que vous croyez. On marque un nouveau temps de pause dans l'émission et on se retrouve juste après avec notre invité.
On s'en va sur des chemins différents, toi et moi. Mais qu'est-ce qui nous prend? On y croit. Si le ciel est menaçant, je perçois un soleil levant. Si tu tombes, je ne t'en veux pas. Dans ton monde, tu m'emporteras. Si je me trompe, on est bien comme ça. Sur des sujets qui nous font, toi et moi, nous sentir un peu con. On n'a pas le bagage qu'il nous faut. Ça, je ne sais pas, mais je t'aime trop. Si tu tombes, je ne t'en veux pas. Dans ton monde, tu m'emporteras. Si je me trompe, on est bien comme ça. Des ampoules et des cailloux dans les choses tant qu'on tient debout. On s'en bat la distance et puis tout ça. Ça fait peut-être mal, mais rien n'est idéal. Si tu tombes, je ne t'en veux pas. Dans ton monde, tu m'emporteras. Si je me trompe, on est bien comme ça.
Celle que vous croyez, c'est le titre du dernier roman de Camille Laurence, paru chez Gallimard. Camille Laurence est ce soir à bord de Wagon Livre. Camille Laurence, parlons d'une phrase terrible. Un jour que l'héroïne, Claire Milcam, appelle Joe, qui lui-même est en compagnie de Chris, ils ont peut-être bu ou fumé des joints, enfin ils sont dans des états sans doute un peu seconds. Joe étant de toute façon une sorte de mufle et d'incitation, horrible personnage, lui passe Chris au téléphone. À ce moment-là, Claire ne connaît pas du tout Chris par Facebook, mais il lui dit une phrase extrêmement méprisante, histoire de dire « tu nous embêtes, va mourir
oui. ».
Et à partir de ce « va mourir », qui d'ailleurs donne son titre au premier chapitre de votre roman, à partir de ce « va mourir », il y a toute une réflexion de la part de cette patiente, Claire Milcam, face à son jeune et beau psychiatre auquel elle n'est pas insensible, sur la condition malheureuse de la femme aux quatre coins du monde, parce qu'elle-même se considère comme une femme malheureuse, à 48 ans passés, n'étant plus, comme elle le dit par amusement, n'étant plus cotée à l'Argus, et qui est devenue un peu invisible.
Oui.
Et là, vous défendez la cause des femmes, à juste titre, parce qu'on sait qu'il se passe des choses terribles, peut-être même en France d'ailleurs.
Oui, alors évidemment à différents degrés, et ce serait indécent de comparer le sort d'une femme occidentale de 50 ans et le sort des femmes de tous âges dans d'autres cultures et dans d'autres civilisations. C'est bien, beaucoup plus grave ailleurs qu'en France, par exemple. Mais le point commun, parce que je cite à un moment l'affichette qui s'était parue dans les journaux, l'affichette qui est placardée
aux entrées des marchés, voilà, oui. C'est au tout début, hein, c'est dans le prologue de votre
voilà moment. C'est à propos du marché aux femmes institué par Daesh et il y a donc une affichette qui dit ceci: fillette de 1 à 9 ans 200 000 dinars 138 euros, fille de 10 à 20 ans 150 000 dinars 104 euros. Femme de 20 à 30 ans, 100 000 dinars, 69 euros. Femme de 30 à 40 ans, 75 000 dinars, 52 euros. Femme de 40 à 50 ans, 50 000 dinars, 35 000 euros. Et un petit peu plus loin sur l'affiche, les femmes de plus de 50 ans ne sont pas commercialisées, étant impropres à l'usage que veulent en faire les acheteurs. De plus, leur prix ne justifierait pas leur nourriture et le coût du transport pour les acheminer du lieu de capture au marché. Et donc, quand j'ai vu cela, c'est-à-dire que là aussi, c'est bien en fonction de l'âge. Les femmes de plus de 50 ans ne sont pas commercialisées. Elles sont égorgées ou elles sont réduites à l'état d'esclaves parce qu'elles n'ont plus la beauté, la jeunesse, la faculté de reproduction. Donc, elles ne servent plus à rien. Et je me disais que, toutes choses étant égales, c'était un peu ce que pouvait ressentir donc, dans son univers une femme européenne qui vieillit, c'est-à-dire que, de toute façon, toutes les femmes sont des objets. Alors, quand elles sont jeunes et belles, elles sont objets de désir. Quand elles vieillissent, elles sont au mieux objet d'indifférence et au pire objet de mépris, objet de haine, de rejet. Et c'est ce sentiment féminin profond et je crois assez répandu que j'ai voulu traduire.
Et d'ailleurs, vous écrivez « L'indifférence est un autre genre de burqa ».
Oui, parce que tout d'un coup, la femme... qui approche de la cinquantaine ou qui ne se sent plus aussi séduisante, eh bien, a l'impression de disparaître complètement, d'être transparent, d'être invisible, d'être masquée, comme par une burqa. Alors la burqa, c'est pour ne pas montrer la beauté des femmes, et ensuite l'indifférence, c'est parce que on ne voit même plus qu'elles existent.
D'ailleurs. L'héroïne dit « il y a tellement de manières de tuer ». Et un peu plus loin, elle ajoute au psychiatre « les gens ne meurent pas, on les tue, je tue, je suis tué ». C'est le mouvement naturel de la vie, tuer, être tué, on n'y échappe pas. Et elle ramène cela aux femmes où effectivement, et cette anecdote, enfin, qui un terrible fait divers, c'est dans un bus en Inde, d'une jeune femme qui est pourtant accompagnée de son fiancé, mais qui va être tuée par des hommes dans des conditions abominables. Et ces hommes expliquent simplement leur geste en disant « nous voulions tuer une femme ».
Oui, ça m'avait vraiment terriblement choquée. D'ailleurs, le simple fait d'en reparler, ça me donne des frissons. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a hantée pendant des mois et des mois. Parce que ces hommes, une fois arrêtés, ont dit cette phrase, effectivement, « on avait décidé de tuer une femme ». Voilà, c'est-à-dire, samedi soir, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va tuer une femme. Et ça, c'est quelque chose, c'est impensable. On arrive là à l'impensable de la relation, évidemment, extrême et heureusement pas fréquente, mais de la relation entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire un rapport de domination et de haine qui existe.
Faut-il interdire les femmes ? D'ailleurs, la question est posée dans le roman, page 44, toujours dans la bouche de Claire. Et vous mentionnez Alors, vous ne donnez pas son nom. Un médecin qui, du temps de Huysmans, des Goncourt et des grands misogynes de tout poil, voulait faire la chasse à...
À la bestiole à Chignon.
À la bestiole à Chignon.
Oui, oui. J'ai oublié son nom, mais enfin, je pourrais le retrouver. Mais un médecin, oui, oui, qui disait qu'il fallait éradiquer la bestiole à Chignon. Alors, on l'a reconnu, la bestiole à Chignon. Il fallait interdire les femmes, c'est tout de même hallucinant. Comme...
Camille Laurence, en 113 ans, le Goncourt a distingué 11 femmes.
Oui.
Vous êtes membre du prix Fémina. Est-ce que vous pensez que le milieu littéraire est misogyne ?
Oui. Honnêtement, je pense qu'il l'est. Alors, le prix Fémina a cette particularité, justement, d'être beaucoup plus favorable dans les statistiques, si vous regardez, puisque c'est un jury qui est composé uniquement de femmes, mais qui couronne aussi bien des écrivains que des écrivaines. Et c'est beaucoup plus équilibré. Mais bon, par exemple, le prix Goncourt, c'est d'ailleurs pour ça que le prix Fémina a été créé, pour résister à la misogynie flagrante du jury Goncourt. Et je pense que le milieu est encore assez misogyne. Et par exemple, on attribue souvent aux femmes une capacité réduite à traiter les grands sujets, ou alors on les réduit à des histoires d'amour, comme si l'amour n'était pas ce qui compose 90% des romans, voire 99% des romans, y compris des romans d'hommes.
Dans votre roman, il y a l'évocation du sexe de l'homme de manière très, très concrète, très, très matérielle. Alors là, c'est la romancière qui dit à son éditeur, Louis, « Un homme qui bande, c'est merveilleux pour une femme, c'est son sceptre. Je me demande si les hommes le savent. » Bon, ok Louis, tu n'es pas obligé de répondre. Pour moi, c'est une ivresse, un règne et une abdication, le point d'évanouissement de toute méfiance. Je deviens reine et rien.
Oui, là, je voulais rendre hommage vraiment au désir érotique, à la sexualité, au fait que, pour moi, le rapport érotique est quelque chose de très important et qui est souvent minimisé parce que, bon, par pudibonderie ou pour d'autres raisons. Et voilà, je voulais aussi, parce que c'est souvent dit dans l'autre sens, les hommes hésitent beaucoup moins à célébrer les femmes qu'ils aiment, et y compris de façon érotique. Et quand une femme le fait, c'est plus compliqué, ça choque davantage.
Et d'ailleurs, j'insiste encore, c'est au début du roman, c'est lorsque donc Claire explique à son psychiatre que des hommes peuvent finalement... sans réticence, sans honte, sans pudeur, déclarer à un grand média télévisé qu'à 80 ans, il bande encore. Alors c'est le cas, donc elle parle de Jean-Pierre Mocky, qu'elle a vu à la télé, oui, qui se vantait de baiser encore à 80 ans passés. Et un peu plus loin, donc elle dit au psychiatre, que je retrouve, j'ai perdu, mais enfin, elle dit, vous imaginez, femmes très âgées dire qu'elles mouillent quand elles matent des jeunes hommes.
Ça serait affreusement choquant, alors que là, c'est une émission à laquelle j'ai assisté, enfin, que j'ai vue à la télévision, et effectivement, tout le monde applaudissait, parce que Jean-Pierre Mocky expliquait qu'il bandait encore à 80 ans passés, et d'ailleurs, il draguait ouvertement une toute jeune comédienne qui était sur le plateau. Et j'imaginais, enfin je ne peux même pas imaginer d'ailleurs, l'inverse. C'est-à-dire une femme de plus de 80 ans qui regarderait comme ça, qui reluquerait un jeune acteur sur le plateau. Ça aurait été, mais à la fois ridicule, choquant, scandaleux. Et voilà, c'est ça que je... Il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes sur ce terrain-là, ça ne me le fera pas dire.
Mais vous, Camille Laurence, le fait que Jean-Pierre Mocky dise qu'à 80 ans, il bande encore, ça vous fait sourire ? Vous trouvez ça choquant ? Ou...
Bah, je trouve ça un petit peu pénible dans une sorte d'arrogance qu'ont beaucoup d'hommes à se croire... éternellement séducteur, y compris avec des femmes très jeunes, alors que ça leur viendrait même pas à l'idée de regarder une femme qui aurait simplement 10 ans de moins qu'eux. Donc ça m'énerve.
La femme est-elle l'avenir de l'homme ? On en reparle peut-être après la dernière pause musicale de l'émission. Je rappelle que nous sommes ce soir avec Camille Laurence pour son dernier roman paru chez Gallimard. Celle que vous croyez, elle est avec nous ce soir, c'est Camille Laurence. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Il y en a qui donneraient tout pour changer d'époque, pour gagner le cœur d'une autre ou éviter les chocs. Il y en a certains qui veulent tout, le dessus et les dessous. Il y en a qui ne veulent jamais dormir au même endroit, qui rêvent de sauver le monde ou d'inventer des lois. Pour des hommes et des idées, pour des femmes et des années, on rêve tous d'attraper une étoile. Moi je veux vieillir avec toi, c'est mon plus beau rêve ici-bas. Certains qui ne veulent rien, d'autres qu'un joli matin. On a tous un rêve qui nous porte. Moi je veux vieillir avec toi, c'est mon plus beau rêve ici-bas. Oui, je veux vieillir contre toi, c'est mon plus grand rêve ici-bas. La vie n'en finit pas.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Camille Laurence, alors la femme est-elle l'avenir de l'homme? En tout cas, Claire Milcam, face à son psychiatre, n'y croit pas du tout.
Bah, déjà, moi je préférerais que la femme soit le présent de l'homme. L'avenir, on verra, mais elle a déjà du mal à être le présent de l'homme. Et c'est vrai que le personnage de Claire est un personnage douloureux. De toute façon, l'histoire s'est mal terminée pour elle, puisqu'elle est dans un hôpital psychiatrique. Donc, il y a une part de tragédie dans son histoire. Donc, elle n'y croit pas parce que son expérience a été désastreuse. Pour autant, je ne généralise pas, parce que j'ai des amis qui me disent « Mais si, mais écoute, quand même, il y a même des femmes qui sont avec des hommes plus jeunes, ça existe. L'amour, c'est pas des chiffres. » Je dis « D'accord, mais enfin, statistiquement, combien d'hommes sont avec des femmes plus jeunes et combien de femmes sont avec des hommes plus jeunes ?»
Il y a des noms dans le roman.
Comment ?
Il y a des noms d'hommes avec des femmes plus jeunes. Voilà. Alors, par exemple, il y a Macron.
Voilà.
L'ancien ministre.
Voilà.
Le beau oui. Emmanuel Macron.
Oui, mais si vous regardez comment
et en plus,
traité,
elle était enseignante.
Comment est traitée cette information ? Oui, mais comment est traitée cette information le plus souvent dans la presse ? Enfin, sauf la presse féminine qui est plutôt contente de cette situation. Mais sinon, c'est toujours présenté de façon un petit peu ridicule. Comme si il était encore avec sa maman. Oui.
Il y a Pierre Moscovici qui est apparemment une femme beaucoup plus jeune que lui.
Voilà, lui, il a une femme qui a 30 ans
de
moins.
Je ne savais pas, là, vous m'appreniez des choses.
Mais oui, mais vous savez, moi, je suis ça de très près.
Vous balancez.
Et alors lui, les gros titres des journaux, c'est le ministre et la belle et le ministre. La belle et le ministre, vous voyez. Donc, j'ai pas vu ça pour Madame Macron. J'ai pas vu la belle et le ministre.
Parlons un peu du langage. À un moment, j'ai relevé cette phrase qui m'interpelle. L'écriture, c'est de la pêche.
Oui. Oui, je crois que... enfin, moi, c'est mon expérience, hein, par rapport à la chasse qui est plus brutale ou violente. C'est de la pêche parce que l'écriture est faite de beaucoup d'attentes, de beaucoup d'attention en tout cas, de silence, de calme, on attend que ça morde, on attend que les mots arrivent, que l'inspiration comme ça soit plus vive. Et oui, c'est quelque chose pour moi d'assez... enfin, pas paisible, parce qu'il faut rester aux aguets, hein, il faut pas s'endormir sur son hameçon. Mais c'est de cet ordre-là. Et c'est très, il faut être patient.
Est-ce que, comme la romancière Camille Morand, lorsque vous n'écrivez pas, qu'il y a donc un vide, qu'il y a un manque, est-ce que vous vous adonnez à la lecture? Et alors, il y a une page, c'est page 144, il faut que je lise, Camille Laurence. Cette romancière dit à son éditeur: « Je me vautre sauvagement dans la langue française, dans aucune autre. » Je lèche, je suce, je goûte, j'aspire, je fais naître le désir sous ma langue qui est aussi désir de savoir. J'embrasse un rêve de récit, le baiser me raconte toujours des histoires, ce sont les plus belles, celles qu'inventent en silence les baisers. » Et il y a aussi une réflexion sur la langue. Alors cette romancière, elle est un peu, je ne sais pas comment dire, un peu excitée, parce que sur la langue, elle pense à l'organe plus qu'à...
Elle pense aux deux sens du mot, c'est le même mot, le mot langue, pour l'organe très concret qui permet aussi d'embrasser et d'autres activités agréables. Et puis la langue qui fait qu'on parle, voilà, le langage. Et pour elle, c'est un petit peu la même chose. Et là, je dois dire que je peux tout à fait assumer ces paroles pour moi-même. C'est-à-dire qu'il y a une sensualité dans l'usage de la langue, au sens de la langue écrite, par exemple, ou même orale. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du... oui, de la sensualité, de l'érotisme. C'est pas séparé. C'est pas quelque chose qui serait d'un côté intellectuel et de l'autre charnel. C'est... la langue, ce sont ces deux sens-là en même temps.
Alors j'aime bien aussi une expression, elle dit « je me branlais de mots ».
Oui, mais vous soulignez.
Et le corps est un livre ouvert.
Oui, mais je pense qu'on apprend beaucoup, beaucoup du rapport charnel qui est très, très sous-estimé. Je pense qu'on apprend beaucoup de l'autre et d'ailleurs je suis très sensible à cette expression biblique « connaître » au sens, on dit dans la Bible, « il connut Rachel » ou je ne sais plus, au sens il eut des rapports sexuels avec elle. Et j'aime bien que ça ait ce sens-là, « connaître », parce que je crois que c'est un moyen de connaissance, la sexualité.
Il y a aussi
réellement.
Le « connaître »,
le
naître
connaître,
avec
voilà,
aussi.
Naître avec, la connaissance, c'est-à-dire que finalement quand on se rencontre et quand on... La connaissance amoureuse, c'est une sorte de nouvelle naissance, oui. C'est presque mystique.
Alors puisque nous sommes dans la linguistique et pas très loin de l'étymologie, j'aimerais qu'on revienne sur Michel. Alors lui, il est à l'HP aux côtés de notre pauvre Claire Milcam. Parce qu'évidemment, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé à Claire pour arriver à l'HP.
Non. Elle a fait un délire. Elle a eu un moment où elle a fait une crise, une bouffée délirante, comme on dit. Qu'elle appelle, elle, une bouffée désirante.
Alors, amen, ça veut dire j'y crois.
Oui. Oui.
Vous et aimez donc, bien l'étymologie.
Ah oui, j'adore.
Il n'y a pas que ce mot-là. Alors, il y a aussi vanité des vanités. J'ai oublié l'expression en hébreu.
Oui, c'est merveilleux. Vanité, en fait, le mot en hébreu, le premier sens, c'est la buée qu'on fait en hiver, quand on souffle. Il y a de la buée qui sort. Et donc, ça a donné le mot, le sens de vanité, c'est-à-dire c'est rien. Quoi. C'est, mais je trouve qu'il y a très souvent un sens concret dans l'étymologie qui est merveilleux. Et d'ailleurs, savoir, parce que je dis que la sexualité permet de connaître l'autre, donc de savoir quelque chose, d'avoir un savoir sur l'autre, eh bien, c'est la même étymologie que saveur, donc quelque chose de très concret, justement, avec la langue, quelque chose qu'on peut savourer. Le savoir se savoure.
Et cet homme passionné d'étymologie qui est lui aussi interné, alors lui, il a été adopté puis ensuite abandonné. Donc voilà. C'est peut-être pour cette raison qu'il a besoin de revenir à l'origine des mots
tout à
pour
fait.
Comprendre le
oui,
sens
oui.
et se comprendre lui-même.
Oui,
peut-être.
bien sûr, certainement. Il a besoin de l'origine.
Alors, on a évoqué beaucoup d'aspects de ces relations amoureuses virtuelles par Internet. Donc, méfiance avec l'Internet, Camille?
Oui, méfiance, oui. On ne peut pas avoir complètement confiance parce qu'il y a trop de possibilités de mensonges, de masques. Mais en même temps, je pense que ce n'est pas quelque chose à quoi il faut renoncer. Mais oui, il faut faire attention.
Ne pas, effectivement, s'inventer une autre vie via Facebook.
Ben, on peut le faire, mais à ses risques et périls, oui. Oui.
Donc moi, je ne m'y attellerai pas non plus. J'ai tout compris maintenant, grâce à celle que vous croyez. Je ne m'amuserai
l'idéal,
à me rajeunir sur Facebook.
L'idéal, c'est de se rencontrer ensuite dans la vraie vie. Comme ça, au moins, on est fixé.
Alors, en revanche, ce qui est tout à fait intéressant, c'est par rapport... Alors, Camille a une nièce qui s'est suicidée et qui avait une page Facebook. Et effectivement, il y a cette chose terrible, c'est que les pages Facebook des gens qui sont morts ne disparaissent jamais.
Oui, alors ça,
j'en
ai vu, j'en vois plusieurs qui restent depuis des années, qu'on appelle des ghosts, c'est-à-dire des fantômes. Il y a la page telle qu'elle est restée avec les derniers messages postés. Enfin, c'est assez pathétique, ça, oui.
En tout cas, pathétique, c'est peut-être aussi un peu l'adjectif que l'on pourrait accoler à cette mésaventure de votre héroïne.
Oui, il y a quelque
héroïne.
Chose de pathétique dans son destin, oui.
Celle que vous croyez, donc c'est le titre de votre roman, Camille Laurence. Alors je vous ai découverte à travers ce roman, j'ai envie d'aller lire les plus anciens. En tout cas, les hommes, franchement, vous nous égratignez passablement.
Oui, je dois reconnaître que dans ce roman, ils ne sont pas spécialement bien lotis, mais pas tous en même temps. Moi, j'ai une grande tendresse pour le psychiatre. Il est tout de même, il essaie, bon, il se trompe un peu, mais il essaie de faire du mieux possible. Mais bon, en effet, les deux autres, Joe et Chris, ne sont pas des modèles de princes charmants, c'est sûr.
Eh bien, ma foi, sur ce constat terrible, nous allons nous quitter. Merci, Camille Laurence, d'avoir été ce soir à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Rayonne, une émission que nous avons enregistrée au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon, ville où vous êtes née,
oui.
Et que vous avez quittée.
Je suis partie après mon bac, oui. Mais j'y reviens, puisque ma famille y habite.
Merci Camille
Laurence.
Merci
à vous de m'avoir invité.
Merci à vous en tout cas, bien sûr. Je recommande votre lecture de roman aux femmes et aux hommes, celles
oui,
que vous croyez.
Aux hommes aussi.
Aux hommes aussi,
c'est
hein,
important.
Bien sûr, bien
oui.
sûr. Ça permet de progresser et de prendre conscience oui. de certaines choses. Celles que vous croyez, c'est chez Gallimard. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir et à mercredi prochain, toujours sur Radion pour un autre numéro de Wagon Livre.